Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton enfant, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des choses qui appartiennent à ton prochain. » De tous ces commandements, c'est ce qui est le passage le plus connu, je pense, de la Bible. Alors, on ne connaît peut-être pas par cœur, mais on a au moins les grandes idées. Hein. Et il y a plus de 3000 ans, environ 3 mois après que Israël soit sorti de l'Égypte, Moïse va monter sur le mont Sinaï, et c'est là où Dieu va lui donner la loi, hein, comme on dit, les 10 commandements, ou le décalogue, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Dieu va lui donner la loi, elle sera gravée du doigt de Dieu, mais aussi assistée par les anges. Hein. Il y a plusieurs références dans la Bible qui parlent de cela. Et cette loi va devenir la base de toutes les lois humaines. Je ne sais pas si vous réalisez que même la République, les lois que nous faisons des fois sont basées sur les 10 commandements. En gros, hein, pas évidemment dans le détail, mais en gros. Un certain Chouraki disait, en parlant de la loi, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme, quelque part. Et ça serait la meilleure. Parce que vous imaginez si d'un seul coup, tout le monde se mettait à appliquer le décalogue, les 10 commandements. La terre entière se met d'un seul coup à obéir aux 10 commandements. Plus de vol, donc forcément il n'y aura plus de corruption et tout ça, puisque tout ça c'est lié. Plus de convoitise, j'irai pas attaquer un pays parce qu'ils ont du pétrole ou je ne sais pas quoi. Plus de mort, puisqu'il n'y aura plus de meurtrier, on n'a pas le droit. Plus d'adultère, etc., etc. Ça serait chouette, non? Très beau la vie, hein? Ça commence par moi, c'est ça le problème. Donc ça serait quand même quelque chose d'extraordinaire si tout le monde le mettait en pratique. Mais normalement dans l'Église, on est censé le faire, déjà. Donc on va parler un peu de ces 10 commandements, on ne va pas tout faire aujourd'hui, on va juste prendre 3 commandements. Mais l'idée, c'est déjà, dans un premier temps, c'est de nous dire, ces 10 commandements nous appellent à respecter Dieu, au plus profond, hein, du respect qu'on lui doit. On va introduire, on va parler un peu des 3 premiers commandements. Alors, pour introduire, simplement, Dieu se présente. Hein. Alors Dieu prononça toutes ses paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » Dieu se présente, il dit « Je suis l'Éternel ». Et quand il dit ça, il décrit toute sa personne, tout simplement. Hein. Ça décrit sa grandeur, ça décrit son immuabilité, son acéité. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, ça veut dire qu'il est complètement indépendant. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de Dieu. Et avant même que la terre soit créée, que les hommes soient là, Dieu était là, il faisait son business, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, il existait, il a besoin de personne en fait. « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et ce « je suis », hein, on retrouve aussi dans Exode 3, 14, quand Moïse va lui demander le nom, ça rappelle l'éternité, ça rappelle aussi tous les attributs. Dieu est absolument tout. Voilà. Plus même que ce que nous pouvons comprendre, parce que nous, je ne sais pas qui a compris déjà Dieu dans sa totalité. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Hein. Donc il est absolument tout. Il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et j'aime bien le « ton ». Alors peut-être ça peut faire peur, mais en même temps, c'est Dieu qui dit « j'ai envie d'une relation avec mon peuple ». Et on a décrit tout à l'heure la relation que Dieu avait avec le peuple d'Israël dans le psaume 107. Mais Israël possédait son propre Dieu. Autour, les gens avaient des dieux, des idoles, avaient des cultes idolâtres. Aujourd'hui, ça se voit moins, mais c'est toujours pareil quelque part. Hein. Mais Israël avait son propre Dieu, et ce Dieu dit « Je suis ton Dieu ». Ça exprime vraiment la volonté d'une intimité avec l'homme. C'est quand même extraordinaire. Moi, tout petit, dans l'univers, imaginez la grandeur de Dieu, et dit « Moi, je veux une relation avec toi ». On s'en honorerait, ou bon, on a tellement l'habitude de venir à l'église et de dire oh, « C'est normal ». On devrait être honoré, non ? Hein ? Et dans ma relation avec Dieu tous les jours, je devrais avoir ça dans un coin de ma tête en me disant « Mais la chance que j'ai !» Parce qu'il aurait pu juste faire « Et je suis bleu ». Mais il veut une relation avec moi, et avec son peuple, évidemment, l'église aujourd'hui. Il dit qu'il t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la servitude. Servitude, ça décrit toute son œuvre. Alors, on se souvient comment Israël est sorti après toute la puissance, démonstration de puissance de la part de Dieu. Voilà le Dieu d'Israël, voilà le Dieu qui se présente à Israël. À un moment, ils étaient devant la montagne, ils voyaient les éclairs, ils voyaient la puissance de Dieu, et ils tremblaient, ils avaient peur d'approcher. Ça, c'est Dieu. C'est ça qu'on a tendance à oublier. Nous, on a un petit Dieu dans une petite case dans notre tête quelque part, et on dit « il est gentil, il est mignon, Jésus, il est... » Voilà. Mais ça, c'est Dieu. Et Dieu, c'est Jésus. Ce Dieu absolument tout-puissant qui a pu faire sortir Israël de sa servitude, mais en même temps qui a fait énormément de miracles. Et en même temps, il rappelle que vous étiez esclaves et vous avez eu besoin d'être libre. Un peu plus tard, il nous rappellera que nous sommes esclaves de nos péchés aussi et que nous avons besoin d'être libres. Et c'est Dieu, au travers de Jésus-Christ, qui a permis cela. Mais arrêtons de diminuer Dieu dans notre tête, peut-être, ou même dans l'Église, ou dans notre relation. Dieu est absolument immense. Et si vraiment je commence à comprendre qui est vraiment Dieu dans ma vie, qu'est-ce que ça fait ? Ça me pousse à m'humilier. Ça me pousse à réfléchir à ma relation avec lui. Ça me pousse à vraiment me remettre en question. Alors, les 10 commandements dans sa totalité se composent, on pourrait dire, en deux parties. D'abord, il y a les devoirs envers Dieu. On va aborder une partie ce matin. Comment je me comporte vis-à-vis de Dieu ? C'est-à-dire celui que je prie, celui que j'implore, celui que je suis normalement. On peut prier, on peut implorer Dieu, on peut le suivre, mais on peut des fois le faire mal aussi. Et beaucoup de gens suivent un Dieu, mais ne connaissent pas vraiment Dieu. Est-ce qu'on a vraiment conscience de qui est Dieu ? Quand on se présente devant lui dans la prière, où il est majesté. Prenez le temps de lire dans l'Apocalypse toutes les descriptions qu'il a faites de Dieu, ou dans l'Ancien Testament, justement, quand on voit la démonstration de puissance. C'est celui-là que j'approche chaque fois que je prie, ou que je lui parle, ou que j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que c'est ce Dieu-là que j'approche, ou alors c'est mon Dieu préfabriqué, tout petit, qui ne peut pas grand-chose finalement pour moi, souvent. Ces devoirs parlent aussi de notre service, de notre fidélité, de notre régularité. Si je sers Dieu, si je suis fidèle, si je suis régulier, ça démontre qui est réellement Dieu pour moi. Si vous voulez savoir la taille, je n'ai pas envie de dire la taille, mais comment vous évaluez Dieu dans votre vie, bah regardez votre relation avec lui tout simplement. Si je ne sers pas, si je ne suis pas fidèle, si je n'ai pas de régularité, Dieu est tout petit dans ma vie en fait. Par contre, s'il est vraiment le grand Dieu, alors ça me fait un peu peur et j'ai envie de le respecter. Et à ce moment-là, je me mets au travail. Quand le patron vient derrière vous et qu'il vous regarde et que vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites ? On m'en fout ? Pourquoi tu viens me voir ? C'est ce qu'on fait ? Ben non. Ah non. Généralement, on se plie, on a peur et on tremble et on essaie de travailler. Enfin, pourquoi Dieu, il est moins qu'un patron, bien souvent. On a peur d'être en retard au travail, mais on n'a pas peur d'être en retard à l'église. On a peur de ne pas aller travailler, mais est-ce qu'on travaille des fois pour Dieu de la même manière ? Notre comportement envers Dieu. Et puis la deuxième partie, c'est les devoirs envers notre prochain. J'ai un prochain, je suis censé l'aimer. Et de là, forcément, ma façon d'agir découlera de mon obéissance à Dieu. Si je obéis à Dieu, forcément, je vais respecter mon prochain. Ça aura forcément une incidence sur autrui. Si j'aime Dieu, si je veux respecter ses commandements, je ne vais pas tuer mon prochain. C'est bien. Pas mal de ne pas tuer son prochain. Mais allez dire ça à certaines personnes. Ou alors je ne vais pas le voler, ou je ne vais pas convoiter, etc. Faut-il encore savoir ce que Dieu demande pour respecter le prochain ? C'est ça le problème. Si je ne lis pas la Bible, si je ne me laisse pas enseigner, et plus peut-être, je ne peux pas savoir ce que je dois faire vis-à-vis de mon prochain. En tout cas, Dieu nous a donné toute sa volonté dans la parole et dans ses 10 commandements. Il ne l'a pas fait au peuple simplement pour « voilà, je vous propose de suivre tout cela ». Quelque part, il nous ordonne de suivre tout cela. Et c'est même plus qu'un ordre, parce que c'est bon pour nous. si on obéit réellement aux 10 commandements, eh ben, tout va bien. Dans le meilleur du monde. Même si on est pécheur, peut-être, mais tout ira beaucoup mieux. Donc le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Des fois, on se dit dans nos têtes, mais ça, c'est pas pour nous, en tant que chrétien. En tout cas, Dieu là refuse le syncrétisme. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, le mélange de tout, hein, de Dieu, etc. Il faut se souvenir du contexte. Hein, Israël vient de sortir après 400 ans environ d'esclavage, et là-dedans, ils étaient tous les jours à côté des Égyptiens qui leur apprenaient leur culte, leur idolâtrie, ils leur apprenaient leur propre Dieu, parce que les Égyptiens en avaient une tonne. On ne se pose pas trop de questions pourquoi, à peine sortis, ils ont dressé un veau d'or, alors que Moïse était justement en train de chercher les 10 commandements. Mais ils étaient imprégnés 400 ans. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer 400 ans dans l'idolâtrie la plus complète. Forcément, ça vous marque, quelque part. Même nous-mêmes, des fois, quand on sort peut-être de notre religion, il y a toujours des petites restes qui sont là et qui posent des fois problème. Aujourd'hui, l'idole, c'est tout ce qui remplace Dieu. Le matériel, la science, l'argent, et on pourrait en faire toute une longue liste, et on est baigné dedans au quotidien. Luther disait, en parlant d'une idole, c'est quelque chose en quoi notre cœur se confie totalement. L'homme se confie dans la science, l'homme se confie dans l'argent, mais ne se confie pas en Dieu. Donc c'est forcément une idole. Si je ne place pas ma confiance en Dieu, je deviens idolâtre. Et ça, c'est peut-être pour nous, parce que des fois, on ne place pas la confiance en Dieu. On place la confiance en nous-mêmes, en notre épargne, en notre travail, mais pas forcément en Dieu. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres formes d'idoles qui commencent à naître. Hein, elles sont très subtiles, mais par exemple, nous pouvons idolâtrer l'Église en cherchant sa gloire, sa grandeur. Et il y en a de plus en plus. On est 5000, nous, le culte, le dimanche matin. Un jour, on dira ça est triché. Mais on ne le fait pas forcément pour rendre gloire à Dieu, on le fait parce qu'on veut frimer par rapport aux autres églises. Et là, on idolâtre l'Église, on cherche sa gloire, on ne cherche plus la gloire de Dieu. De toute façon, quand on sera 200, on coupera en deux, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais semer. Une autre forme, c'est que nous pouvons idolâtrer les dons spirituels pour ressentir la présence de Dieu, parce que c'est ce que font les églises aujourd'hui. Hein? Moi, je sais très bien comment vous faire ressentir, soi-disant, Dieu le dimanche matin. On va mettre la musique à fond, on va avoir plein de sentiments, et on va dire « ça, c'est Dieu ». Pas Dieu du tout, ça c'est votre cœur. Hein, vous écoutez un bon morceau de musique, ça fera la même chose dans votre cœur. Mais après on change juste les parents, on dit c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est pas des sentiments Dieu. Parce que le jour où vous sortez de l'église et que vous avez plus de sentiments, vous dites Dieu a disparu, il est où ? Parce qu'on peut pas avoir tout le temps les mêmes sentiments le dimanche matin et toute la semaine. C'est pas possible. Hein. Mais on idolâtre les dons spirituels, ceux qui guérissent, ceux qui parlent en langue, etc. En fait c'est désirer plus que ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de faire certaines choses, il ne demande pas de faire plus. Et des fois, on veut faire beaucoup plus parce qu'on va être beaucoup plus spirituel. Restons déjà simples, ça sera pas mal. Hein. Puis une troisième forme d'idolâtrie, c'est en nous confiant en l'homme, dans les pasteurs par exemple. Ah, mon pasteur, ou ce missionnaire, ou cet évangéliste extraordinaire, ou les grands auteurs. Ah, alors ça, c'est des références et on les idolâtre quelque part. Hein. Surtout m'idolâtrer, hein, parce que je ne mérite pas du tout ça. Hein. Mais on le fait inconsciemment et j'ai déjà dû discuter avec des gens à cause de ça. Ou alors les chanteurs chrétiens, parce que, excusez-moi, il y a 20 ans, ok, mais aujourd'hui c'est des stars. Il y a bientôt le top 50 des chanteurs chrétiens. J'ai rien contre la musique, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce qu'on en fait, c'est peut-être à eux d'arrêter d'en être là, mais c'est des stars. Et une star, c'est une idole. Je suis désolé de le dire. Donc voilà, il y a une forme d'idolâtrie chez les chrétiens qui rentre tout doucement aussi dans l'église. Et à nous de faire attention. Ça veut pas dire que je dois pas écouter de la musique. Mais hein, on est d'accord, hein, on peut écouter de la musique et le Seigneur nous pousse à chanter des psaumes et des choses comme cela, et pas à idolâtrer. C'est subtil, c'est invisible, mais c'est là aujourd'hui. Deuxième chose que Dieu refuse, c'est l'œcuménisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, il y a une forte tendance aujourd'hui à vouloir rapprocher toutes les religions ensemble, ou mélanger tout ça pour dire on va apprendre à s'aimer les uns et les autres au mépris, la doctrine, etc. Seulement, la Bible ne dit pas que Dieu est le Dieu des musulmans ou le Dieu des témoins de Jéhovah. Parce que chez les témoins de Jéhovah, le Fils n'est pas Dieu, par exemple. Et chez les musulmans, ils ne veulent pas trop parler de Jésus sur la croix. Hein. La Bible nous décrit qui est Dieu avec précision. Et quand je lis la Bible du début à la fin, je ne peux pas le comparer aux musulmans ou au judaïsme, aux témoins de Jéhovah, etc. C'est impossible pour moi. Donc je ne peux pas me mélanger avec eux. Dieu n'est pas le Dieu des religions. Excusez-moi de le dire, mais le catholicisme, c'est la plus grande secte qui existe au monde. Parce qu'ils ont mis Marie au-dessus de Jésus. C'est grave. Hein. Je choque peut-être, je suis désolé, mais c'est vrai. Et le pape, soi-disant celui qui est entre Dieu et l'homme, c'est Jésus, normalement. Donc, ça, c'est pas le Dieu dont il est parlé dans la Bible. Surtout que toutes les religions proposent un salut par les œuvres, alors que la Bible parle d'un salut par grâce. C'est plus facile de faire des choses pour obtenir le salut que de devoir demander pardon pour ses péchés, se s'humilier devant Dieu et d'accepter le beau cadeau de la grâce. C'est dur, c'est très difficile. Impossible aussi de prier Marie, Allah, je ne sais pas quoi, parce que la Bible, de toute façon, ne me demande pas de prier ces gens-là, me demande de prier Jésus, et pas plus ni moins, et Dieu. Donc le Dieu biblique n'a qu'une personne, qu'une seule volonté, pour l'homme, pour la foi, et pour le salut, tout simplement. On ne peut pas mélanger ces choses-là. La Bible nous présente un Dieu qui est unique, et c'est lui-même qui se présente là comme étant le Dieu unique. Moïse va demander le nom de Dieu, et lui répond « Je suis celui qui suis ». On voulait avoir une autre réponse peut-être, mais il lui a répondu cela. « Je suis celui qui suis », c'est dans Exode 3, 14. Ça démontre que Dieu est intemporel, incompréhensible peut-être aussi pour l'homme, parce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si on a vraiment compris qui est Dieu réellement. Ça rappelle aussi que Dieu seul se connaît lui-même. Il n'y a que Dieu qui se connaît, puisqu'il se connaît lui-même. Mais Jésus nous a quand même révélé une partie de Dieu. Et il a dit « Je suis Dieu ». Là, sur la terre, mais il n'a pas tout révélé de Dieu. Donc on connaît quand même une certaine partie de la personne de Dieu, mais s'il n'a pas voulu nous révéler tout, c'est peut-être pour notre bien, à mon avis, parce que sinon, je crois qu'on brûlerait d'un seul coup. Et il demande de ne pas adorer d'autres dieux. Ce Dieu unique, seul Dieu dans l'univers et de tout temps, demande de ne pas idolâtrer. Et surtout, il faut bien comprendre une chose, parce que là, on parlait d'idolâtrer, mais à l'époque, quand on idolâtrait, on était puni de mort. On vous chopait en train d'idolâtrer, vous étiez lapidé. On parlera de la jalousie de Dieu tout à l'heure. Ça doit me faire comprendre que c'est grave que d'idolâtrer devant Dieu. C'est me confier en l'homme, peut-être, me confier en des dieux qui étaient en bois autrefois, à la place du Dieu, seul Dieu. On comprend que Dieu est un peu fâché, quelque part. Entre Dieu qui a créé le monde, etc., le bois même, et l'homme qui se prosterne devant un morceau de bois ou devant un homme, une star ou je ne sais pas quoi, c'est ridicule quand on y réfléchit un petit peu. Et pourtant, l'humanité vit comme cela depuis des siècles et des siècles. On comprend que Dieu soit absolument jaloux. Lui, il veut que ses enfants le servent que lui, personne d'autre que Dieu. Et il le mérite absolument. Il mérite notre adoration. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est se souvenir qu'il y a un seul Dieu unique. J'ai envie de dire des fois, ouais, on est d'accord, mais si je posais trois questions sur Dieu, un petit peu théologiques, qui sont dans la Bible, est-ce qu'on est capable de décrire Dieu vraiment dans ce que dit la Bible, c'est pour vous pousser à connaître mieux Dieu, parce qu'on croit connaître Dieu, mais on le connaît en partie, et tout le reste de ses parties, c'est ma religion, c'est ma coutume, c'est ce que je pense, etc. Mais prendre le temps d'étudier vraiment qui est Dieu, faire de la théologie proprement dite, comme on dit, prendre vraiment le temps d'étudier qui est Dieu, et ben vous allez voir que ça change complètement peut-être notre connaissance de Dieu. Et ça va changer dans ma pratique de tous les jours, parce que je me rends compte qu'il est vraiment... Ah, Dieu peut faire des miracles dans mon travail. Vous le saviez ? Oui, on peut lui demander quand ça ne va pas. C'est pas, il ne va pas répondre tout le temps, forcément. Mais j'ai quelqu'un qui est là pour m'aider dans la difficulté. Mais il faut que je m'en souvienne. Il ne faut pas juste que Dieu soit là le dimanche matin à l'église. Il est là partout et en toutes circonstances. Et c'est ça, respecter Dieu, justement. Si je dis que je veux respecter Dieu, il faut que j'apprenne déjà à le connaître pleinement. Moi, je ne peux pas respecter quelqu'un que je ne connais pas. Je vais aller dans la rue, bonjour monsieur, je vous respecte. C'est de l'hypocrisie, c'est mentir, parce que le gars, c'est peut-être un meurtrier, je ne le sais même pas. Je respecte quelqu'un que je connais uniquement, sinon je ne peux pas le respecter. Et je veux suivre un Dieu que je connais, pas un Dieu qu'on me propose et qui est peut-être tout simplement factice. Deuxième commandement, pas d'image taillée. C'est pas pour nous, aujourd'hui on fait pas ça. Ne pas se prosterner ni servir des idoles. Alors à l'époque, on comprend le contexte. Il se faisait plein d'images taillées qui représentaient des choses. Et on se prosternait tout simplement devant ces choses en disant « Aide-moi, morceau de bois ». Le gars, il devait attendre longtemps quand même, avant que le morceau de bois l'aide. Enfin, je sais pas comment on n'arrive pas à se rendre compte comment on est ridicule des fois. Encore si c'était que ça. Mais il y en a qui sacrifiaient leurs enfants. Vos nouveau-nés, ça vous dit, les faire passer par le feu pour qu'il pleuve ou je ne sais pas quoi, pour que vous ayez du travail. Demandez à l'enfant, je ne crois pas qu'il sera d'accord. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est que si Dieu nous demande de ne pas faire d'image taillée ou de représentation de lui, c'est tout simplement parce que Dieu est esprit. Vous arrivez à représenter ce qui est spirituel ? Vous pouvez me dessiner vos pensées? C'est pas possible. On ne peut pas représenter Dieu parce qu'il est esprit. Et ça, il faut le savoir, évidemment, par la Bible. Hein. Et en plus, il ne peut ni veut être représenté par l'homme. Ça ne l'intéresse pas. Il veut simplement qu'on mette notre foi et notre vie spirituelle en relation avec lui, tout simplement. Donc même si je voulais, moi, en plus je suis artiste peintre, donc si je voulais me mettre à représenter Dieu, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire. Alors autrefois, il y avait des idoles, hein, on l'a dit, des morceaux de bois, il y avait des bijoux. Vous vous souvenez que le veau d'or, c'était avec plein de choses qui étaient faites là, hein, mais... Ésaïe 44, et j'aime bien ce passage, dit, versets 15 et 17, « Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe, il en met aussi le feu pour cuire du pain, et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole, il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu ». Dieu se moque un peu hein, de ces gens-là. Là. Je pense qu'il y a quand même une part d'ironie, mais c'est tout à fait ça. C'est complètement vain. Et le problème, c'est que l'homme aujourd'hui continue, peut-être pas de cette manière-là, mais on s'invente Dieu. De mille et une manières. Il y a la religion, mais il y a les sectes, il y a mille et une manières de s'inventer Dieu. « Mon Dieu ». Oui, je crois en Dieu, mais pas forcément le vôtre. J'ai mon Dieu à moi. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de l'homme, etc. Alors même les chrétiens peuvent inventer leur Dieu. Je suis désolé de le dire. Manque de connaissance, c'est un Dieu à moitié ou à un tiers de ce qu'il est réellement. Quand vous aimez quelqu'un, il me semble, on essaie d'apprendre à connaître la personne dans sa totalité. Alors, on ne connaîtra jamais tout le monde complètement, mais on se comprend bien. Je ne peux pas commencer un mariage en ne connaissant quasiment rien de ma future épouse. Ça serait la folie, quelque part. Mais cette folie-là, ça ne nous gêne pas par rapport à la relation que nous avons avec Dieu. On est prêt à le suivre, mais on ne sait pas qui c'est. Ou on ne sait pas où il faut le suivre, des fois. Donc le manque de connaissance fait que nous nous fabriquons aussi notre Dieu. Et des fois, justement, je reprends des gens parce qu'ils disent « Ah, mais Dieu nous dit de faire ça ». Non, Dieu n'a jamais demandé de faire ça. Ou le légalisme qu'on nous apprend bien souvent, Dieu n'a jamais demandé de faire ça. Dieu nous a donné une certaine liberté et on se la refuse nous-mêmes des fois par manque de connaissance. C'est dommage de se priver de connaître vraiment qui est Dieu. Alors on l'a dit, les idoles aujourd'hui, c'est les stars. Alors je ne parle pas dans le milieu chrétien forcément, mais on a plein de stars. On a vu ça avec Johnny Hallyday. Si on pouvait faire ça avec Jésus-Christ un jour, ça serait chouette. On serait bien content. Oui, il y a aussi des stars évangéliques, mais bon. Notre corps devient une star aussi. L'idolâtrie de notre corps. Il y en a qui croient que parce qu'ils vont faire plus de jogging, ils vont vivre plus longtemps. C'est Dieu qui reprend l'âme à un moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être en bonne santé, bon, on s'entend bien. Mais quand Dieu a décidé que c'est fini, le fil d'argent est coupé, comme il est dit dans le Proverbe sur l'Ecclésiaste. Il y a le travail qui peut devenir une forme d'esclavage. Moi, je me souviens, d'idole plutôt, mais je me souviens de mon pasteur à Arles, M. de Sort, et... Lui avait un magasin de fruits et légumes, et il y en avait plein d'autres, il y a 20 ou 30 ans, qui étaient là et qui travaillaient tous ensemble. Et lui a décidé que le dimanche, et c'est là où il travaillait le mieux, il consacrerait ce jour-là à Dieu. Donc il disait, je vais perdre du chiffre d'affaires, parce que c'était le moment le plus crucial. 10 ans après, il était le seul. Il a confié toutes ces choses à Dieu. C'est valable pour nous. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet exemple, parce que le dimanche, c'est pour moi, on en reparlera du sabbat, et le dimanche, c'est pour Dieu. Uniquement pour Dieu, pas pour mon travail, c'est pour Dieu. Il y a le matériel, je crois qu'on n'a pas besoin de discuter, mais je pense souvent à Agé qui est en train de reprendre le peuple qui devait construire le temple, pour le transposer aujourd'hui, qui doit construire l'église, et qui s'occupait de l'embrayer leur maison. Enfin, c'est bien d'être, de décorer la maison, mais si c'est au détriment de Dieu, si ça me prend mon temps pour Dieu, alors c'est dommage. La paresse est une forme d'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on est bien dans le lit le dimanche matin. Je ne sais pas pourquoi le dimanche matin, c'est là où j'ai envie de dormir le plus longtemps. Pourquoi Mais c'est curieux. À croire que c'est fait exprès. Et des fois, on est un peu feignant. Alors, pas que le dimanche matin, mais dans notre relation avec Dieu, dans un tas de domaines, on est paresseux. Et ça remplace Dieu. Et ça, c'est la définition de l'idolâtrie aussi. Alors, on n'idolâtre pas notre paresse, mais on se comprend. Facebook, réseaux sociaux, tout ce qui prend du temps et qui ne sert à rien. Enfin, presque à rien. Nos enfants peuvent devenir aussi une forme d'idolâtrie. Nos familles peuvent devenir une forme d'idolâtrie. Nos amis, il y a tellement de choses qui peuvent remplacer à un moment Dieu parce qu'on est des êtres humains. Mais tout ça, c'est inutile parce que ça ne secourra personne et parce qu'il ne mérite pas, je m'entends bien, hein, la confiance qu'on peut avoir en Dieu. On peut se confier sur notre épouse, sur notre famille, etc. Mais pas de la même manière qu'en Dieu. Hein. Moi, j'aimerais bien délivrer ma femme quand il y a des problèmes complètement, mais je n'y arriverai pas, parce que j'ai besoin de Dieu pour ça. On se comprend bien. Donc, vaut mieux se confier en Dieu qu'en l'homme ou avec nos capacités. Le problème, c'est que ces idoles, elles prennent notre temps, beaucoup de temps. Elles empêchent d'aller aux réunions, elles empêchent d'avoir une relation avec Dieu dans la prière, dans les lectures de la Bible. Arrêtez-vous une fois et prenez une semaine où vous observez le temps qu'on perd avec ces mini-idoles, j'ai envie de dire. On en perd du temps. Moi, je le dis, après, vous débrouillerez avec le Seigneur quand vous serez devant lui. Ce n'est pas mon problème, quelque part. Moi, je le dis, c'est tout. Et c'est la Bible qui le dit. Dieu va être au centre de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de loisirs, ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas plaisir. Mais quand même, il y a des limites entre les deux. Et surtout que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. La jalousie divine n'a rien à voir avec notre jalousie à nous. Hein. Quelqu'un essaie de définir, il disait, comment accepter l'idée de la jalousie de Dieu ? Il est vrai que nous donnons à ce terme une signification propre à nos sentiments entachés de mauvaises pensées, mais il exprime simplement l'amour intense de Dieu, cet amour exclusif qui exige la réciprocité. Dieu nous aime et il attend quelque chose de nous. Et là, il est jaloux. Alors, ce n'est pas comme nous, on est jaloux pour ma femme ou je ne sais pas quoi, mais Dieu mérite absolument qu'il y ait cette réciprocité. Il m'a créé. Mais si je le remplace par un morceau de bois ou par autre chose, ben Dieu devient jaloux. Comparer le morceau de bois et la majesté de Dieu, c'est comparable. Il y a de quoi être jaloux à un moment. Attendez, c'est moi qui vous ai créé le morceau de bois, là, il n'a rien fait, il va brûler. On comprend que Dieu soit jaloux. Elle n'est pas comparable à la jalousie de l'homme parce qu'elle est sainte, elle est maîtrisée. Nos jalousies à nous, elles ne sont pas maîtrisées, généralement, ça pète. Mais celle de Dieu est absolument maîtrisée, elle est parfaitement juste. Et ce n'est pas moi qui vais lui dire « Oh, c'est pas bien ». Mais cette jalousie aussi punit. Ça, on l'oublie souvent. On dit, bon, ok, Dieu, etc. Mais Dieu peut punir aussi à un moment. Et il parle d'iniquité des pères sur plusieurs générations. Alors, il y en a beaucoup qui ont peur. Hein, mais j'ai trouvé une définition assez sympa pour parler de ça. Quelqu'un disait, ces mots énoncent l'une des plus grandes lois du gouvernement divin, dont toute l'histoire est l'illustration. Dans la vie des peuples et des familles, l'on ne voit que rarement l'impiété et l'immoralité des pères punis dès la première génération. Ce n'est que lorsque le mal a mûri pendant plusieurs générations qu'il porte ses fruits amers et aboutit à la catastrophe. C'est pas forcément... on comprend l'idée. C'est pas parce que moi j'ai fait un péché que pendant quatre générations, les gens vont être punis. Mais si par exemple je suis alcoolique, forcément ça aura un incidence sur ma famille. Et ça aura un impact ensuite sur les enfants des enfants, etc. On comprend l'idée. Mais surtout, il dit aussi, hein, il est précisé sur ceux qui me haïssent. Si moi je hais Dieu dans ma première génération, je vais transmettre cette haine aussi à la deuxième génération qui va haïr Dieu et quatrième. Et forcément, si on hait Dieu, ce n'est pas bon pour nous. Mais il ne faut pas s'arrêter là tout simplement parce qu'il fait aussi miséricorde. Il y a une petite doctrine qui circule, je ne sais pas si c'est encore très moderne, on va dire, mais c'est ce qu'on appelle le péché des pères. Et je connaissais des chrétiens qui allaient à l'endroit où le papa ou la maman avait péché et allaient demander à l'endroit... pardon, comme si j'étais responsable en fait du péché de mes parents et que ça avait un impact sur ma vie chrétienne. Seulement Ézéchiel nous dit en chapitre 18-20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc il faut comparer ces deux textes. Hein. Si j'ai fait du mal, ce n'est pas quatre générations qui vont forcément subir mon mal. Si à la deuxième génération, je fléchis le genou devant Dieu et je demande pardon pour mon péché à moi, peut-être lié à mon passé, mais si je demande pardon pour mon péché, eh bien, la génération sera sous la miséricorde tout simplement de Dieu. Hein. Donc on est tous responsables devant Dieu, même si c'est vrai que ma façon d'agir va produire quelque chose dans ma famille. Si je vole, si je tue, etc., mes enfants me regardent. On ne peut pas leur parler de Dieu après avec ça. Et forcément, ça va avoir un impact sur eux. Alors même en tant que chrétien, est-ce que ma façon de vivre, ma vie chrétienne, donne envie à mes enfants de venir à l'église, de venir à l'étude biblique, etc. On ne sait pas, question qu'on peut se poser. Mais Dieu fait miséricorde si on obéit à ses directives pour le suivre. Et c'est une jalousie qui a des revendications aussi, parce que bah, moi je peux demander quelque chose à Dieu, mais Dieu peut exiger de moi l'adoration, non ? Il m'a créé. Ce n'est pas vous qui avez créé Dieu, je crois. C'est lui qui m'a créé. Et s'il a envie de faire comme ça, je ne suis plus là. Donc je ne suis pas grand-chose, quelque part. Mais lui revendique justement notre adoration. Et il a créé l'homme et la femme uniquement pour l'adorer. Pas juste pour profiter de la vie, pour l'adorer. Et en plus, on va passer l'éternité à le faire. Autant préparer ça de notre vivant. Et surtout, il mérite absolument cette adoration. Il désire que nous le servions uniquement lui. Je ne parle pas là en tant que forme d'idole, mais par rapport à tout ce qui peut empêcher ce service avec Dieu. Lui est le seul Dieu réel, le seul Dieu qui mérite notre service, notre adoration, etc. etc. Il faut respecter ce Dieu jaloux, parce que sinon c'est de la folie. C'est lui qui punit, mais c'est... et heureusement qu'il nous punit de temps en temps pour nous reprendre, mais c'est aussi lui qui fait absolument miséricorde. Et chaque fois qu'on demande pardon, il nous relève, il nous pardonne, et il oublie totalement ce qu'on a fait. C'est formidable, hein. J'aimerais bien que les hommes soient comme ça, des fois. Mais bon. Puis le troisième commandement, il dit de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Pas pour nous, ça. L'importance du nom. Le nom, c'est une étiquette qui sert à distinguer les hommes, les femmes, hein, les uns des autres. Heureusement qu'on n'a pas tous le même prénom. Mais ça nous permet de nous distinguer. Mais en même temps, le nom exprime la personnalité de chacun. Hein. C'est une espèce de résumé, un synonyme de la personne. Ça a aussi des fois une autorité, un nom. Ça a aussi une réputation. Si je vous dis Hitler, pensez quoi ? Amour, beauté. Si je vous dis Napoléon, pour ceux qui aiment l'histoire, ça a une réputation. On sait de quoi on parle, on sait ce qu'il y a derrière. Alors imaginez le nom de Dieu, quelque part. Mille fois plus sacré, hein, parce que le nom de Dieu est sacré. Quelqu'un disait, enfin, quand on cherche d'abord dans l'Ancien Testament le nom de Dieu, parce qu'on croit que c'est le nom de Dieu, mais ce n'est pas le nom de Dieu, Dieu. Dieu, c'est un générique, hein, c'est Elohim dans l'hébreu. Mais, par exemple, quand Jacob va demander le nom à Dieu pendant qu'il se battait, bah, Dieu lui refuse de lui dire son nom, tout simplement, mais va le bénir. Quand Moïse demandera, Dieu lui dira « Je suis ». Manoac, à qui l'ange de l'Éternel va annoncer la venue de Samson, hein, avant qu'il naisse, il va demander aussi le nom à l'ange de l'Éternel qui était là, et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, forcément Dieu, et il lui dit, c'est merveilleux. Quand on cherche à identifier vraiment le nom de Dieu, on ne peut pas le faire. On n'a que des synonymes, on pourrait dire. Un jour, on entendra vraiment le vrai nom de Dieu pleinement. Quelqu'un disait justement, Dieu ne peut pas nous révéler son véritable nom, ni nous le dire en face, car il est redoutable et l'homme ne supporterait pas de l'entendre. Si l'homme ne peut pas voir Dieu, il ne peut pas non plus entendre son nom sans mourir. Le nom propre de Dieu est un nom ineffable et inexprimable. Dieu le voile comme il voile sa gloire et sa personne. Et c'est peut-être tout simplement pour notre bien. Mais le nom de Dieu est absolument sacré. Mais un jour, on l'entendra. Mais là, il faudra qu'on soit transformé et dans la gloire. Mais ce nom de Dieu qui est tellement sacré est tellement mal employé aujourd'hui. Alors par exemple, hein, je ne sais pas si vous connaissez, pour le nom de Jésus, il existe des saucissons qui s'appellent Jésus. Je ne sais pas si c'est vraiment très subtil, je crois que c'est dans le sud. Hein. Au cinéma, on emploie le nom de Dieu, de Jésus, à tort et à travers, n'importe comment, et c'est vraiment des fois blasphématoire. Hein. Mais on a aussi nos expressions, bon Dieu, mon Dieu, nom de Dieu, Dieu m'est témoin. Et ça, je l'entends tous les jours chez les chrétiens. Je ne veux pas être légaliste. Mais le nom de Dieu est sacré. Et peut-être qu'il y a d'autres expressions qui pourraient remplacer ces bons dieux, etc. Je suis en train de le faire en plus, c'est pas bien, bravo. On va pas être légaliste. Mais chaque fois que je dis mon Dieu, Dieu fait quoi ? Mais c'est pas ça qu'on est en train de dire. Si j'invoque Dieu, c'est il m'entend et je vais parler avec lui. C'est pas juste une expression qu'on balance comme cela. Ou nos emplois répétitifs du nom Seigneur dans nos prières. Il y en a qui prient Seigneur, 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 Seigneur. Pourquoi il faut le dire 15 fois ? Il a compris. Si moi je vous dis bonjour, bonjour, vous allez bien, comment ça va ? Vous allez me prendre pour un fou ? Mais oui, mais c'est ça. Dieu, il entend. On communique avec lui comme on communique avec les hommes. C'est parce qu'on ne sait pas quoi dire, c'est tout. Alors vaut mieux se taire dans ce cas-là. Mais Dieu n'est pas glorifié quand on fait cela. Ou prier le Seigneur sans le suivre, parce qu'on le fait des fois, sans le servir, en l'ignorant quelque part, ses rendez-vous, tout ce qu'il me demande de faire, et ça on le fait bien plus souvent. Tu es mon Seigneur, mais je ne veux pas te suivre, je ne veux pas te servir, je ne veux pas venir aux études, je ne veux pas venir à l'église, mais tu es mon Seigneur. Dieu doit dire, hein, rigolo que tu es, Donc nous aussi, on peut employer ce nom de Dieu en vain, d'une certaine manière. Dans nos serments aussi, Dieu m'est témoin. Matthieu 5, 33, 37 dit, « Vous avez encore appris qu'il était dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Et moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, où est Tréchi, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. » Pourquoi on a besoin de jurer des fois? C'est tout simplement parce qu'on est en train de mentir, tricher, combiner, arranger. Le Seigneur veut simplement qu'on soit dans la vérité. Des fois, la vérité, ça ne fait pas toujours plaisir, mais il faut des fois la dire, hélas. On ne doit pas se contenter de serments, mais plutôt de cette vérité et rien que la vérité. Ce n'est pas facile à vivre. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Ayons une vie cohérente avec le nom de Dieu que nous revendiquons. C'est important parce que le nom de Dieu est important. Se dire chrétien et vivre l'opposé, au vu de tous, croyez franchement que le nom de Dieu a une valeur pour le monde à ce moment-là? Si je fais comme le monde, Dieu c'est rien du tout, quelque part. Il faut que je vive d'une façon cohérente avec celui que je veux suivre, avec celui que je veux faire connaître. Si je veux faire connaître Dieu, son nom, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, une valeur, quelque chose qui est différent du monde et qui donne envie aussi. Alors, après, les gens ont envie ou pas, mais on ne fait pas comme le monde. Et je dois être cohérent avec ma vie et avec ce nom de Dieu qui est tellement important. Et la Bible nous dit que Dieu ne laisse pas impunis ceux qui prennent son nom en vain. Parce qu'autrefois, il y a un exemple, c'était un jeune fils qui avait blasphémé le nom de Dieu dans Lévitique 24, direction lapidation. Et nous, on fait ça comme si c'était rien aujourd'hui. Si chaque fois qu'on blasphémait le nom de Dieu, il y avait des lapidés, il n'y aurait plus personne sur la terre. Quasiment, en tout cas. Mais bon, ce n'est pas important. Mais nous, en tant que chrétiens, sans tomber dans un légalisme, comme j'ai dit, le nom de Dieu est sacré. Il est important et ça a toute une valeur, toute une réputation derrière. Et quand je l'emploie, c'est tout simplement pour honorer mon Dieu et mon Seigneur. Donc le respect du nom de Dieu est aussi important. C'est pas simplement le respecter, mais il y a une vie derrière dans ce respect. Parce que ce nom est saint, parce que ce nom est majestueux, parfait, éternel, ça me conduit à le respecter dans ma vie au quotidien. On ne sera jamais parfait, on est bien d'accord, mais quand même, il y a des limites aussi là-dedans. Pour terminer, nous ne sommes plus sous la loi. Vous allez me dire, ah ben, c'est pas pour moi alors, c'est pour l'Ancien Testament. Et c'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi, mais la loi était là autrefois pour faire réaliser le péché. « Tu ne tueras point. » Ah bon? Il ne faut pas que je tue? Parce qu'avant, ils ne savaient pas. Il y avait la conscience, je pense, quand même. Mais à partir du moment que je sais que je ne dois pas faire quelque chose, il y a une culpabilité qui se pose sur moi. Et parce que j'ai cette culpabilité, et la Bible dit qu'à cause de ce péché, eh ben, je suis condamné à mort. Qu'est-ce que je fais alors? Eh bien, justement, la loi était là, et c'est Galates qui en parle, pour conduire tout simplement à Christ. J'ai conscience que je ne dois pas faire quelque chose, je ne peux pas m'en sortir par moi-même, mais Dieu offre sa grâce. On ne vit plus sous la loi, mais le chrétien, lui, pratique la loi tout simplement parce qu'il est devenu chrétien. En tant que chrétien, je peux la mettre en pratique au quotidien, cette loi. Je parle des 10 commandements. Il y avait des lois sacrificielles, etc. Ce n'est pas tout à fait la même chose, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais je peux vivre les 10 commandements au quotidien. Dieu me donne par son esprit cette aide. Maintenant, est-ce que j'ai envie ou pas? Ça, c'est une autre question. Les trois premiers commandements qu'on a vus aujourd'hui appellent au respect de Dieu et surtout à considérer qui est Dieu. Ce serait tellement bien que quand on pense à Dieu, quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'un Dieu raccourci, d'un Dieu diminué, mais vraiment de ce Dieu glorieux. Et ça changera peut-être la discussion, ça changera peut-être ma vie, mon service, ma vie de prière, etc. etc. Je dois considérer qui est réellement Dieu. Et ce respect, vous savez, on le voit dans notre amour pour les autres. On verra ça au fur et à mesure, dans mon service, dans mon exemple, etc., etc. Lui, il m'a tout donné, tout, et il me donne encore tout. Non seulement les choses terrestres, mais aussi la vie éternelle. Qu'est-ce que moi je peux lui donner? Tout simplement le respect. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité, et merci parce que tu t'es plu un jour à donner ses commandements à Moïse, qui les a transmis ensuite au peuple et qui sont toujours là dans notre mémoire et qui ont même aidé à construire ce monde d'une certaine manière, mais bien souvent nous n'obéissons pas à ses commandements. Merci parce qu'en tant que chrétien, tu me donnes la possibilité de les vivre, d'y obéir. Je sais qu'on est loin d'être parfait, mais apprends-nous justement à les méditer davantage et à les mettre en pratique dans ma vie personnelle. Merci parce que tu es le Dieu unique qui n'a qu'un seul plan pour nous, qu'un seul salut. Tu ne veux pas être mélangé, tu ne veux pas être comparé, tu ne veux pas être échangé avec quelqu'un d'autre. Tu es jaloux, comme on l'a dit, et tu mérites absolument notre adoration. Alors que nous puissions devenir ces chrétiens adorateurs, ces chrétiens qui respectent tout simplement ton nom, pour ta gloire, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.